C'est pas la gauche, la France. C'est pas la droite, la France.
Le bon choix est dicté par le bon sens.
Vous avez tendance un peu à reprendre le refrain d'il y a 7 ans. C'est quand même ennuyeux que vous soyez devenu l'homme du passif.
Chacun devra voter selon sa conscience.
Et à 7h25, on poursuit le récit de ces élections présidentielles françaises avec vous, Pierre Marlet, bonjour.
Bonjour.
Aujourd'hui, vous nous ramenez en 1981 pour la première fois depuis qu'a été instaurée l'élection présidentielle au suffrage universel en France. Le président est allé au bout de son septennat, de ses 7 ans de mandat. Et les Français vont donc revivre le même match qu'il y a 7 ans, à savoir le match Giscard-Mitterrand.
Oui, et pourtant ça n'allait pas de soi, hein, parce que François Mitterrand a dû faire face au sein de son parti à une opposition interne menée par Michel Rocard, et la bataille pour lui a été rude. Quant à Giscard, sa fin de septennat est entachée d'affaires, notamment la fameuse affaire des diamants que lui aurait offert Jean Bedel Bokassa, l'autoproclamé empereur de Centrafrique. Et quand débute la campagne présidentielle, voici ce qui passe en 1981, en boucle à la radio.
J'ai crevé l'oreiller sans en attendre rien.
Alors François, on sent qu'on change d'époque, non?
Oui, c'est vrai, effectivement. Hein, 81, oui, ça commence à sentir bon les années 80.
Ah, Herbert Léonard, Bachung, ouais. Visage, hein, cet électro. Alors c'est vrai pour les chanteurs qu'on change d'époque, c'est vrai aussi pour les humoristes. Et c'est de là que viendra le premier coup de tonnerre de la campagne électorale. Coluche est candidat à la présidentielle.
J'appelle les feignants, les crasseux, les drogués, les alcooliques, les pédés, les femmes, les parasites, les jeunes, les vieux, tous ceux qui ne comptent pas pour les hommes politiques, à voter pour moi. Tous ensemble pour leur foutre au cul avec Coluche, le seul candidat qui n'a pas de raison de mentir.
Alors évidemment, cette candidature de Coluche au départ, Pierre, c'était une aimable farce. Ça devient une affaire très sérieuse parce que Coluche est crédité dans certaines intentions de vote de 16%.
Et oui, de quoi perturber le jeu politique. Alors face aux pressions, face aux menaces même, Coluche jettera l'éponge. Mais il aura fait rire beaucoup de monde avec son sens de la répartie hors du commun, comme par exemple... Georges Marchais a dit que comme candidat j'étais un rigolo, j'ai dû lui faire remarquer que c'était pas moi qui avais commencé. Voilà, ça fait mouche. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, les apparitions du candidat du Parti communiste, Georges Marchais donc, à la télévision, valent le détour. Le voici par exemple face à un panel de journalistes qui l'interroge sur sa relation compliquée avec le candidat socialiste Mitterrand, et les journalistes insistent un peu trop à son goût.
Ma politique, c'est de battre Giscard d'Estaing. Ça... Mais ça, je vous fais observer que Giscard, vous en parlez
c'est
pas.
C'est sûr, on va y aller, on va y aller.
Attendez, si vous continuez le débat, je vais être obligé de parler de votre programme.
Vous placez toujours Giscard en tête, Giscard ceci, mais qu'est-ce qu'il vous dit, il sera en tête,
Giscard. Je sais pas, moi je regarde les sondages, vous savez.
Oh, les sondages, les sondages.
Oui, Georges Marchais d'ailleurs, dont se revendique aujourd'hui l'actuel candidat du Parti communiste français, Fabien Roussel. Justement, Pierre, que disent les sondages, ces fameux sondages? Avant le premier tour du 26 avril 1981, on assiste en fait à un match à quatre.
Oui, il y a deux candidats de gauche face à deux candidats de droite. D'un côté, le communiste Marchais et le favori de la gauche, François Mitterrand. De l'autre, le gaulliste Jacques Chirac et le favori de la droite, le président sortant, Valéry Giscard d'Estaing. C'est dans ce quatuor, aux relations tumultueuses, que se trouve la clé de la présidentielle de 81. À gauche, il veut gagner. François Mitterrand doit réussir deux choses. D'une part, imposer dans l'électorat de gauche l'idée du vote utile pour lui permettre d'avancer largement le candidat communiste au premier tour. Et puis d'autre part, convaincre les Français qu'ils ne doivent pas craindre une influence de l'Union soviétique s'il est élu. D'où cette très habile envolée dans son dernier meeting avant le premier tour à Toulouse.
Ni Moscou, ni Washington, ni Bonn, ni personne. Aucune force à l'intérieur, ni les forces de l'argent dont je me moque, ni le grand capital, ni les multinationales, ni les lobbies, ni les coalitions, aucune puissance au monde ne me fera jamais vous dire autre chose que ce que je pense.
Alors ça rappelle un peu François Hollande en 2012 qui dénonçait le monde de la finance, mais ici c'est avec plus de lyrisme.
Effectivement, Mitterrand gagne son pari, se qualifie au second tour avec 25% des voix, talonnant ainsi Giscard d'Estaing qui récolte 28% des suffrages.
Tout va donc dépendre du report des voix. Alors même si avec 15% il est déçu, le communiste Georges Marchais a appelé sans réserve à voter pour François Mitterrand. Alors qu'à droite, le moins que l'on puisse dire, c'est que le ralliement de Chirac manque de chaleur et de conviction.
Le 10 mai... Chacun
devra voter selon sa conscience. À titre personnel, je ne puis que voter pour M. Giscard d'Estaing.
Ouais, de la part de Chirac, ça ressemble franchement au service minimum, hein, Pierre.
Et oui, et on se dit que le duel Mitterrand-Giscard, match retour de 74, s'annonce tout aussi serré. D'où l'importance de ce fameux débat d'entre-deux-tours. Souvenez-vous, 7 ans plus tôt, Mitterrand avait dû encaisser le fameux retour du cœur. Hein. Vous n'avez pas le monopole du cœur. Autant dire qu'ici, il s'est bien préparé avec petites fiches et phrases assassines. Mais comme en 1974, la réplique phare du débat sera spontanée.
Pour le Deutschmark, pouvez-vous me dire les chiffres ? Je connais bien la chute du franc par rapport au mark entre 1974 et aujourd'hui. Le chiffre de la journée,
oui.
De la soirée.
Oui. Ça commence de grandeur.
Ça s'est aggravé. D'abord, je n'aime pas beaucoup, hein, je vais vous dire les chiffres, mais je n'aime pas beaucoup cette méthode. Je ne suis pas votre élève, vous n'êtes pas le président de la République ici, vous êtes simplement mon contradicteur.
Oui,
et j'entends bien, non, pas de cette façon-là. Je n'accepte pas cette façon.
Attention.
Je n'accepte pas cette façon.
Le fait de vous demander quel est le cours du débat.
Non, pas de cette façon-là.
Giscard veut donc jouer à Monsieur le Professeur. Mitterrand démasque sa tactique tout en prenant soin un peu plus tard d'ailleurs de donner le cours du marque, montrant ainsi qu'il connaît parfaitement la bonne réponse. La fin de la campagne est tendue et le soir du 10 mai, la France découvre le nom du vainqueur.
Et c'est Mitterrand donc qui l'emporte avec 51,7% des voix. C'est 1% de mieux que la victoire de Giscard 7 ans plus tôt.
À 55 ans, celui-ci voit l'essentiel de sa carrière politique derrière lui. C'est cruel, tout aussi cruel que ce fameux départ raté.
Au revoir.
Ah oui, ce fameux au revoir.
Et oui, ce ton empoulé, hein, ce long moment de silence avant que le président ne se lève, ne se retourne, ne se dirige vers la porte. L'image est restée dans toutes les mémoires. En attendant, pour Mitterrand, on peut dire que sa troisième tentative aura été la bonne. 7 ans plus tard, il voudra faire mieux que Giscard en devenant le premier président réélu. Mais ça, c'est pour lundi prochain.
Pour 1988, donc rendez-vous lundi prochain. Merci beaucoup, Pierre Marlet, pour cette nouvelle histoire des élections présidentielles en France. Il est 7h32, voici